Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après la fête de la Sainte Trinité, dimanche dernier, nous voilà aujourd'hui en un dimanche qu'on pourrait appeler le dimanche de l'invitation. Jésus nous raconte la parabole d'un homme, homo quidam, qui fecit cenam maniam, qui organisa un grand festin. Bien sûr, cet homo quidam n'est pas un homme quelconque, il représente Dieu. Et le grand festin auquel nous sommes invités n'est pas seulement la Sainte Eucharistie ici-bas, c'est un repas encore plus merveilleux dont la Sainte Communion n'est que l'ébauche et la figure. Ici-bas, au Saint-Sacrement, Jésus nous donne à manger son corps et son sang, pour nous permettre d'entrer en contact avec sa divinité. Mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson. Mais dans l'éternité, il nous fournira une nourriture encore plus parfaite qu'il nous annonce dans l'Apocalypse en disant par exemple « À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ». Ou bien encore, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » Et saint Jean entend plus tard un ange qui lui déclare « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Et ici-bas, effectivement, le banquet eucharistique est la réalité la plus haute qui existe, puisqu'y est présent notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais ce banquet sera transformé dans le ciel en un festin encore supérieur, un festin totalement spirituel, dans lequel notre âme se nourrira incessamment et directement de la vie même de Dieu. Et évidemment, cette réalité dépassera toutes les descriptions qu'on peut en faire ici-bas. Déjà, nous disons que l'âme se nourrira. C'est inexact en ce sens que la nourriture sur cette terre évoque toujours une destruction. On ne peut pas se nourrir d'un aliment sans le détruire. Il faut qu'il cesse d'exister pour pouvoir renouveler notre force vitale. Mais notez qu'il y a dès ici-bas une exception, et c'est justement la Sainte Eucharistie. Dans l'hostie que vous allez recevoir dans quelques instants, pour ceux d'entre vous qui vont communier, notre Seigneur Jésus-Christ est tout entier, vivant, glorieux, caché sous les apparences d'un petit morceau de pain. Et ce qui sera détruit lors de la digestion, c'est précisément tout ce qui reste encore du pain, à savoir les accidents sensibles, la quantité, ses différentes qualités physiques. Et Jésus, lui, qui est substantiellement présent, ne sera aucunement atteint. Et tant qu'il y a une apparence de pain, Jésus reste présent. Lorsque ses apparences sont dissoutes, il cesse d'être là, mais lui-même n'est évidemment aucunement dissous ni diminué. Il reste ce qu'il est, vivant et glorieux dans le ciel. Et en nous, il est purement actif, nullement passif. Il agit sur nous, il nous transforme de l'intérieur, dans la mesure où nous nous ouvrons à son action, nous sommes disposés, nous essayons de nous élever à cette action surnaturelle. Pour ça, il faut évidemment faire des actes de foi, d'espérance, de charité, pour pouvoir profiter de cette action de Dieu. Mais c'est notre Seigneur qui agit en nous. On peut dire, avec saint Augustin, que la réalité spirituelle qui s'opère dans la communion est l'inverse de ce qui apparaît à l'extérieur. Parce qu'en apparence, c'est nous qui absorbons le Christ, et en réalité, c'est lui qui nous absorbe dans son corps mystique, parce que c'est lui qui est réellement actif, et il nous demande seulement de nous laisser faire par son amour. Et pourtant, cette manducation eucharistique est encore imparfaite. Elle nous met en contact avec Dieu, mais à travers des apparences sensibles du pain et du vin. Dieu reste là, il est présent, mais il reste caché. Et puis, si nous communions, l'effet de la présence réelle en nous reste très limité dans le temps. Au ciel, notre intelligence, notre volonté seront en contact immédiat, direct, avec Dieu lui-même. La vie divine coulera en nous comme un torrent de lumière, de chaleur, de délices. Ça sera à la fois un spectacle, la vision béatifique, un amour enivrant, un festin délicieux, un concert enchanteur, et beaucoup plus que tout ce qu'on peut dire, parce qu'on ne peut pas imaginer. Ça dépasse tout ce qu'on peut concevoir, comme le répète l'Écriture, « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme n'a pas conçu ce que Dieu prépare pour ses élus. » Pour nous le faire un peu pressentir, la Sainte Écriture multiplie les images. Elle parle d'un trésor, d'un royaume, d'un festin, d'une nouvelle ville, la Jérusalem céleste, que saint Jean décrit dans l'Apocalypse. Elle parle d'une vie, la vie éternelle, qui consiste à connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il vous connaisse, vous et celui que vous avez envoyé. Elle parle d'une consolation sans fin. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Elle parle surtout de la vision de Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et saint Thomas montre comment toutes ces images se complètent. On parle de trésor, explique-t-il, parce que le trésor donne l'idée de quelque chose de suffisant pour tous les besoins de notre vie et même d'une certaine manière d'inépuisable. Un trésor, on a l'impression qu'on pourra toujours y puiser, qu'on pourra ainsi payer tout ce dont on a besoin et qu'on en aura toujours et plus que ce qu'il faut. Eh bien, ça sera le cas dans l'éternité. On parle de festin pour exprimer la délectation qu'on y éprouvera sans fin. On parle de royaume pour évoquer ce rehaussement de l'homme jusqu'à l'union avec Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui insiste surtout sur l'invitation divine. Dieu nous invite à participer à son propre bonheur. Il nous dira, si nous avons la grâce d'être élus, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pas dans n'importe quelle joie, dans la joie de ton maître. Tu étais serviteur, bon et fidèle serviteur, tu es élevé à entrer dans la joie du maître. Et on voit ici le lien avec la fête de dimanche dernier. La Sainte Trinité ne nous est pas révélée comme un mystère lointain devant lequel nous devrions nous prosterner sans approcher. Non, nous sommes vraiment appelés à entrer dans cette vie trinitaire. Et pas n'importe comment, nous sommes appelés à y entrer par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire par le Fils. Comme un sommet montagneux qui ne peut être atteint que par un des côtés, un des aspects, eh bien on peut dire d'une certaine manière, c'est une façon de parler, mais qu'il n'y a qu'un seul des côtés de la Sainte Trinité qui nous soit ouvert, c'est le côté du Fils, parce que c'est lui qui s'est incarné, qui est descendu vers nous. Et en nous laissant incorporer en lui, nous entrons en Dieu, dans la vie trinitaire, en tant que Fils. Nous sommes adoptés en Jésus-Christ comme des fils de Dieu. Nous participons de cette façon-là à la vie même de Dieu. Et c'est une réalité qu'il faut souvent nous rappeler, surtout, surtout si on se sent fatigué, découragé, tenté, et bon, ça arrive à tout le monde, eh bien, il faut ranimer cette espérance, cette vertu d'espérance qu'on oublie un peu trop souvent parce que on rappelle la foi c'est le fondement, donc c'est très important, on rappelle la charité c'est le sommet, c'est très important aussi, mais entre les deux, il y a cette vertu d'espérance qui fait le lien et qui souvent va être en pratique capitale pour garder à la foi, l'esprit de foi et la charité. C'est dans la mesure où on s'excite régulièrement à l'espérance. Comment ? Ben tout simplement en se rappelant devant les joies, les bonheurs de ce monde, à chaque instant, tout ça vient de Dieu et ça n'est rien par rapport à ce que le bon Dieu me prépare dans le ciel. Et en tendant ainsi de cette manière-là, par notre désir, vers le ciel. C'est ça le message de la parabole d'aujourd'hui. Et on peut admirer la bonté de Dieu qui non seulement nous invite à venir chez lui, mais qui veut presque nous forcer à entrer. Simplement, il ne faut pas lui dire non. Si on lui dit non, ben là, nous n'entrerons pas. Et remarquez bien, la parabole indique que les gens qui disent non ne le font pas pour des raisons qui, d'emblée, apparaissent mauvaises en soi. Je dois essayer 5 paires de bœufs. Le travail, c'est pas mauvais le travail. J'ai pris femme, la famille, c'est pas mauvais. J'ai acheté une terre, c'est pas mauvais non plus. Donc le travail, la famille, la terre, tout ça sont des réalités qui sont bonnes. Mais attention, même si on vit et si on doit s'en occuper, attention à savoir regarder plus haut. Travaillons jour après jour à développer cette espérance surnaturelle. Et j'insiste sur le mot surnaturel, ne restons pas dans un vague espoir. Les païens, les égyptiens et d'autres avaient cette idée d'un certain bonheur après la mort, que l'âme serait jugée, puis que bon, peut-être qu'il y aurait quelque chose. Mais ils n'avaient pas du tout l'idée de ce que nous savons, à savoir Dieu qui nous invite à rentrer chez lui dans la Sainte Trinité et notre Seigneur Jésus-Christ qui vient justement pour nous montrer le chemin et nous ouvrir la porte. Donc, développons cette espérance et cette espérance surnaturelle. Pensons concrètement au bonheur qui nous est offert. Relisons cette page d'Évangile. Pensons à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne sa grâce pour y parvenir. Et jour après jour, nourrissons-nous également de la Sainte Eucharistie en lui demandant de renforcer en nous ce désir du ciel. C'est un des effets de la Sainte Eucharistie. Elle rappelle le passé, elle rappelle la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque la Sainte Eucharistie vient dans la messe, qui est le renouvellement de la passion, mais en même temps, elle est un gage de l'avenir. Et si on la reçoit comme il faut, elle doit en nous développer cette vertu d'espérance. Et puis, bien sûr, demandons aussi cette vertu à la Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame, qu'on évoque sous ce titre, Notre-Dame de la Sainte Espérance, on répond, convertissez-nous. Parce que c'est justement le propre de l'espérance, c'est de nous détourner des biens d'ici-bas, d'en détacher notre cœur pour nous tourner de plus en plus vers les réalités célestes. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.